20h, 21h.
Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de L'Heure du Crime. C'est une émission qui a été préparée par Justine Vigneault. Comme chaque jour, c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à ce qui est certainement, en tout cas, la première affaire de corbeau du XXe siècle. Et c'est vrai que on reparle de ces affaires de corbeau à travers, bien sûr, l'affaire Grégory, et parce que le mécanisme est le même, bien sûr. Nous allons parler de cette histoire du début du XXe siècle dont le cinéaste Henri-Georges Clouzot s'est inspiré pour son fameux film Le Corbeau. Et pour en parler, pour disséquer, pour décrypter cette affaire, les deux spécialistes français, ceux qui connaissent le mieux ce dossier, à mon sens, Françoise Vigneron, que nous aurons dans quelques minutes au téléphone dans cette émission, elle est journaliste, elle a écrit L'œil de tigre, la vérité sur l'affaire du corbeau de Tulle en 2004. Et puis elle est aussi l'auteur, on en parlera, d'une BD, le centenaire de l'affaire du corbeau de Tulle. L'autre invité qui est près de moi, ici dans les studios d'RTL, Jean-Yves Le Naour, bonjour.
Bonjour Jacques Pradel.
Vous êtes historien, vous avez vous aussi écrit sur cette affaire Le Corbeau, histoire vraie d'une rumeur, un livre qui est paru en 2006. Alors, première question tout de suite, à l'époque dont nous allons parler, 1917, le terme corbeau n'existe pas.
Pas du tout. C'est effectivement avec le film d'Henri-Georges Clouzot que le terme corbeau est devenu un nom propre. À l'époque, on dit anonymographe. Voilà, ouais. un auteur de lettres anonymes, c'est un anonymographe. Et le mot va justement s'imposer, corbeau avec le film de Clouzot, mais d'où vient ce mot? Pourquoi corbeau, alors que le scénariste avait pensé par exemple à serpent ou des choses comme ça? Eh bien parce que, on va pas dévoiler tout de suite qui est l'auteur de cette affaire, mais...
Non, mais on peut dire quand même que c'est une affaire de corbeau où on a identifié le corbeau.
On a identifié le corbeau, et lors de son procès, elle était en grand deuil, avec des grands voiles, et Le Matin, un grand journal parisien de l'époque, l'a décrit comme un oiseau funèbre, comme un corbeau. Et le mot est resté.
Voilà. Et c'est devenu donc le titre de ce film célébrissime. Alors, c'est la première histoire de corbeau du XXe siècle. C'est pas la toute première histoire de corbeau. Mais cela dit, vous me disiez juste avant qu'on commence l'émission, hors antenne, c'est assez récent finalement, ces histoires de corbeau dans notre histoire.
C'est vrai, la délation est très ancienne. La délation, les sycophantes à la Grèce antique, etc. Mais les corbeaux avec des lettres anonymes, ça ne peut arriver que dans une société alphabétique. Donc l'école publique, gratuite, obligatoire pour tous, laïque, etc., de la Troisième République. Et puis ça ne peut arriver que dans une société où il y a une poste aussi qui fonctionne.
Bien sûr, ouais.
Donc c'est effectivement dans la deuxième partie du 19e siècle que les corbeaux peuvent apparaître.
Alors il faut dire que dans un premier temps, dans l'histoire du corbeau de Tulle, dont je vais vous rappeler dans quelques instants les circonstances exactes, dans cette histoire, ça n'est pas toute la ville qui va vivre d'abord dans la hantise des révélations de celui ou de celle qui signe L'œil du tigre, c'est d'abord le petit milieu des fonctionnaires de la préfecture, un monde clos où transpirent chaque jour les jalousies et les rivalités des employés et des chefs de bureau dont on murmure, on est en 1917, hein, n'oublions pas, dont on murmure qu'ils se sont servis de leurs hautes relations pour échapper à la grande boucherie de la Première Guerre mondiale. Tout commence donc en décembre 1917, quand une employée, Angèle Laval, 31 ans, reçoit la première lettre anonyme. Elle a été engagée le 5 avril 1917 au service de la comptabilité sur proposition de son frère, Jean Laval, lui-même chef de bureau à la préfecture. Et c'est lui qui l'a fait entrer pour remplacer un titulaire qui vient justement d'être mobilisé. Angèle travaille sous les ordres de Jean-Baptiste Moury, un homme aimable de 40 ans, célibataire, qui vit chez sa mère, chef de bureau depuis 1911. Ce matin-là, Angèle ouvre une enveloppe à son nom qui a été déposée sur son bureau. À l'intérieur, une lettre écrite en caractère bâton. Et cette lettre dit ceci, je cite, « Méfiez-vous de Monsieur Moury. C'est un ennemi. Il vous calomnie. Il dit que votre père est un mouchard. Il vous calomnie chez sa maîtresse. Or, Angèle sait que Moury est considéré par ses collègues comme un embusqué, comme on disait à l'époque, depuis qu'il a obtenu son sursis d'appel sur demande du préfet auprès des autorités militaires. Tous ses camarades n'ont pas eu cette chance, mais lui, en tout cas, il n'ira pas au front. On l'envie, on le jalouse donc d'avoir échappé à la grande boucherie. Angèle, qui éprouve beaucoup d'affection pour son chef, recevra bientôt une seconde lettre signée « Un qui vous aime », une lettre qui parle de la duplicité de, je cite toujours, « l'infect Moury ». De son côté, M. Moury a reçu chez sa mère, où il habite en garçon, comme on dit à l'époque, une missive qui lui parle d'Angèle. Je cite encore « N'épousez pas Mademoiselle Laval, qui a des intentions sur vous. C'est une sirène, une charmeuse qui vous rendra malheureux. » Moury n'a aucune intention d'ailleurs de se marier avec Angèle, qu'il trouve assez quelconque, d'autant plus qu'il entretient depuis plusieurs années une maîtresse, Geneviève Lagarde, dont il a une enfant naturelle. Et si cela venait à se savoir, cela pourrait avoir bien sûr de mauvaises conséquences sur son avancement, car il espère passer bientôt chef de division. Et de plus, il a l'intention à ce moment de quitter sa maîtresse pour épouser une autre femme, Marie-Antoinette Filloux, une belle sténodactylo, brune, aux yeux bleus, qu'il a fait engager également par la préfecture en juillet 1914. Ses soupçons se portent immédiatement sur une autre employée aux écritures, une certaine Madame Méron, voisine de sa mère, qui connaît sa situation, qui connaît ses projets d'avenir. Alors il va la voir, il la menace à mot couvert d'une action en justice si elle continue à le calomnier. Mais Madame Méron dément et s'effondre même en pleurs. En quelques jours, toute la préfecture cancane sur le fonctionnaire, sur Angèle et sur Madame Méron. Après une brève accalmie, les courriers anonymes reprennent en août 1919. Les projets de mariage de Jean-Baptiste Moury, devenu chef de division entre-temps, sont sur le point de se concrétiser. Sa sœur reçoit alors une lettre qui la met au courant des intentions de son frère, qu'elle ne connaît pas. La petite Filloux, selon l'expression du Corbeau, y est décrite comme une petite rouleuse qui a des amoureux et même des amants, une intrigante, une femme galante, c'est-à-dire une presque prostituée. Moury, lui, est évoqué comme un futur cornichon. D'autres courriers ajouteront dans les jours suivants que la petite Filloux a contacté une maladie qu'on ne nomme pas lors de ses jours joyeux à Paris et qu'elle a même dû faire tomber, je cite encore, un polichinelle du tiroir, autrement dit qu'elle a avorté clandestinement. Ambiance. 1919, 1920, 1921, le rythme s'accélère, des lettres anonymes se répandent comme une épidémie à travers la ville, l'œil du tigre est au centre de toutes les conversations, on a trouvé des lettres dans les lieux les plus divers, sur les trottoirs, dans les entrées d'immeubles, dans les paniers des ménagères qui rentrent du marché, et même sur les bancs de l'église, dans un confessionnal. Le curé est accusé d'être l'amant de la femme du pharmacien. Des fonctionnaires de la préfecture sont traités de lâches, de mouchards, de tripatouilleurs du ravitaillement. Des secrets de famille surgissent en pleine lumière. Le grand-père d'un tel qui serait mort fou à l'asile, un autre qui était gardien de prison, révoqué pour viol d'une détenue. L'épouse d'un chef de service se pâmerait dans les bras du directeur d'un bazar. Les termes sont souvent orduriers. Vous direz à votre amant qu'il vous lèche quand vous serez indigné. Disposé comme il aime le faire avec Madame X, sa maîtresse. Les hommes sont qualifiés de satyres, de cornards, de cocus, les femmes de putains, de salopes, de chiennes, de peaux de requin, de morue salée. Une liste d'amants et de maîtresses est même affichée sur la façade du théâtre municipal, dénonçant des dizaines de couples illégitimes. Même le bedeau, le sacristain ne sont pas épargnés. Conséquence, tout le monde soupçonne tout le monde d'être le corbeau. Moury envisage un moment que son épouse, l'ex-mademoiselle Filloux, soit l'auteur des lettres. Les maris accusent leurs femmes, les médecins, leurs clientes, les femmes outragées, leurs soupirants, ces cloche-merles. La presse nationale s'empare alors de l'histoire. Le matin, le petit journal, le Parisien, révèle l'affaire à la France entière. On plaint les habitants de Tulle, mais on s'en moque surtout. Et puis, un jour, la farce se transforme en drame. Et ce drame, nous allons en parler avec Jean-Yves Le Naour et tout à l'heure avec mon autre invité, Francette Vigneron.
Jacques Pradel sur RTL.
Et à la une de l'heure du crime ce soir, la véritable histoire du corbeau de Tulle, une série de lettres qui pendant plusieurs années a dressé les uns contre les autres les habitants de cette petite ville de province où il s'était pas passé grand chose jusque-là, il faut bien le dire. Alors on en parle parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des corbeaux de l'affaire Grégory, parce que de toute façon c'est un sujet qui fascine tout le monde, parce que on se met souvent les histoire de corbeaux s'arrête comme ça avec des pointillés parce qu'on ne saura jamais qui a écrit les lettres. Or, dans l'histoire du corbeau de Tulle, au contraire, on va identifier le ou les corbeaux, en tout cas des femmes, et nous en parlons avec mes invités. Pour l'instant, Jean-Yves Le Naour, qui est historien, qui a écrit un livre sur le sujet, Le Corbeau, histoire vraie d'une rumeur, et dans un petit instant, dans quelques minutes, Francette Vigneron, qui elle-même s'est passionnée aussi pour cette histoire, et qui a écrit à la fois d'abord un livre, L'œil de tigre, puisque c'était la signature du corbeau, comme l'a appelé Clouzot par la suite. L'œil de tigre est également le titre d'une BD qui est parue à l'occasion du centenaire de l'histoire. Alors, Jean-Yves Le Naour, je terminais le petit récit pour remettre tout ça dans le contexte il y a quelques minutes, en disant la farce, car c'est une farce à ce moment-là, elle se transforme en drame parce que effectivement, il y a une nouvelle lettre qui va arriver en novembre 1921 et cette lettre va avoir pour conséquence un mort, le premier mort de l'affaire.
C'est vrai que dans un premier temps, ça concerne que le petit milieu de la préfecture, comme vous l'avez dit. Et puis, très vite, ça va s'étendre aux notables. Les notables vont aussi recevoir des lettres. Et puis, ça va concerner bientôt tout Tulle.
Tout le monde.
Voilà.
Oui. Et puis là, le bedeau, donc, le pharmacien.
Voilà. Donc vous avez vraiment, effectivement, les ingrédients de la farce. Mais voilà. Il y a un mort. Il y a un premier mort. C'est-à-dire qu'il y a une lettre anonyme qui arrive dans la boîte aux lettres de la mère d'Angèle Laval et qui
Louise Laval.
Oui, Louise Laval, et le corbeau signe « Je suis le corbeau, je suis Madame Gibert ». Et Gibert, c'est son mari, c'est le greffier de la préfecture. C'est le greffier. Et donc, il dit « c'est pas vrai ». Il tombe dans un véritable délire.
Ma femme n'a pas pu faire ça.
Ouais. Et puis il perd la tête. Et on ne sait pas vraiment tout à fait dans quelles conditions il meurt, mais toujours est-il qu'il est interné, qu'il devient fou.
Parce qu'il s'accuse. Il dit « je mérite l'échafaud ». C'est moi, je me souviens plus, mais on m'a envoûté. C'est moi qui ai écrit ces lettres, c'est pas ma femme.
Il perd la tête et à la fin on pense qu'il y a sans doute un suicide. On retrouve d'ailleurs ce suicide dans le film Le Corbeau de Clouzot. C'est aussi de là que part l'affaire dans le film. Et là cette fois-ci c'est plus une farce, il y a un mort. Et c'est à ce moment-là que les faits diversiers de Paris, comme on appelle les reporters qui écrivent donc des spécialistes dans les faits divers, débarquent à Tulle, parce que là, cette fois-ci, il y a du mystère, il y a une ville empuantie où tout le monde se suspecte, et il y a un mort, donc il y a de quoi raconter. Et puis, l'affaire Landru touche à sa fin, à ce moment-là, et on a vendu beaucoup de papiers avec l'affaire Landru, il faut trouver une nouvelle affaire. Et là, il y a l'affaire de Tulle qui est en train de naître.
Bien sûr, et il va donc y avoir un juge d'instruction parce que on va mener l'enquête sur cette affaire qui a débouché, comme vous venez de le remarquer, par un mort.
Et on retombe dans la farce avec ce juge d'instruction parce que ce qui est incroyable, c'est qu'il est, porté sur l'occultisme.
Alors François Richard, ce juge.
Oui. Alors le pauvre juge va se faire rouler. C'est un petit juge de province qui est infatué d'être retrouvé dans la presse, en photo, d'être interviewé par les journalistes. Il n'a jamais connu ça. Alors il se met à parler. Or, vous savez, hein, la justice et les journalistes, bon, il y en a qui réclament le droit à l'information, et puis d'autres, c'est le secret de l'instruction. Lui se met à parler, et puis il s'acoquine avec des journalistes qui disent, et pourquoi pas ne pas tenter une expérience, faire venir un hypnotiseur, un occultiste de Paris, un magnétiseur, etc., un spirit qui...
Pour interroger les témoins,
on fait venir les principaux témoins dans le palais de justice, et là, quelques passes médiumniques, ça n'a évidemment rien rien donné. Mais le lendemain, en janvier 1922, la une du matin, je crois, ou je ne sais plus quel journal, mais il est ridiculisé. Évidemment, le garde des Sceaux est interpellé au Sénat. La France se gondole et le juge Richard, on va lui retirer l'affaire. Oui, ça, là aussi, ça nous fait penser pas mal à l'affaire Grégory. Avec un juge qui parle beaucoup aux journalistes, qui hésite et qui...
Il y a un Bruyant Artois aussi. Enfin, il y a eu quelques affaires comme ça au fil des années, fait.
C'est vrai. Mais le juge Richard a quand même compris quelque chose de très important dans cette affaire. C'est que dans toutes ces lettres, très vite, il y avait quelque chose de très machiavélique de la part du Corbeau. C'est que il accusait tout le monde en prenait pour son grade, vous êtes un cornard, vous êtes un cornichon, vous êtes un cocu,
etc. Il y avait beaucoup de choses aussi, le Corbeau.
Oui, il y avait des secrets de famille, vous savez, on est quand même dans une petite ville où il y a des choses qui circulent, bien sûr. Mais il y avait souvent un petit compliment pour une personne, et toujours la même personne. Et donc, c'était en fait Marie-Antoinette Fiou qui était devenue l'épouse de Jean-Baptiste Moury. Oui. Et donc les gens, quand ils recevaient une lettre qui avec un tombereau d'insultes, mais avec une petite « vous êtes une traînée, vous n'êtes pas comme la bonne Madame Moury », et bien là, on peut se dire « c'est bizarre ».
On retrouve ça dans l'affaire Grégory aussi, avec les... j'ai pas les noms là en tête, mais on retrouve exactement ça dans l'affaire Grégory. Il y a une des personnes d'un des clans qui n'est jamais attaquée par les lettres anonymes, c'est extraordinaire. Alors, mais en l'occurrence, donc ça, le juge l'a remarqué, et il se dit, alors, soit c'est pour détruire cette femme, soit c'est parce que c'est elle.
Voilà. Et le premier réflexe, c'est de considérer que c'est elle. Et tout le monde est persuadé que c'est elle. Il paraît qu'on ne veut plus la servir, les commerçants se détournent d'elle, on l'insulte dans la rue, elle n'ose plus sortir, elle est même allée à Paris, Madame Moury, pour rencontrer des spécialistes de graphologie, pour essayer de prouver que ce n'est pas elle. Mais elle a une preuve. C'est que en janvier 21, elle était en couche elle a un alibi. Et là, il y avait des lettres qui tombaient alors qu'elle était alitée. Ça ne pouvait pas être elle. Voilà.
Donc là, l'histoire dans l'histoire. Oui. Et le juge se dit, bon, maintenant, il y a peut-être un fil à tirer, mais il voyait lequel, lui, déjà. Oui, quelqu'un lui en veut. Alors, évidemment, après, on réfléchit. Qui en voulait, mais dans le bon sens du terme, à M. Maury, au départ, c'était la jeune Angèle, quand même. Bon. Et Angèle, elle a une maman, etc. Alors, là, on est au début de la solution de l'affaire. Mais celui qui a vraiment contribué à résoudre l'affaire du Corbeau, de Tulle, c'est un homme que l'histoire de la police scientifique a retenu comme presque le père fondateur, Edmond Locard, le docteur Edmond Locard. On parle toujours de Bertillon et beaucoup moins d'Edmond Locard. Alors c'est Edmond Locard qui, en 1920, je crois, a inauguré le premier laboratoire de police scientifique dans les combles du palais de justice de Lyon. Et Edmond Locard va être partie prenante, acteur de cette affaire, parce que on lui a demandé, en tant que spécialiste de la criminalistique, de venir étudier cette affaire de près, et il va avoir une idée formidable, qui va nous ramener encore une fois d'ailleurs à l'affaire Grégory, et ça, on va en parler avec Français de Vigneron dans un petit instant.
L'heure du crime sur RTL.
Mais qui était donc le Corbeau de Tulle? S'agissait-il d'une seule ou de plusieurs personnes? Il y a eu un premier mort, on vous le disait il y a un petit instant, si on dit qu'il y a un premier mort, c'est que la liste n'est pas terminée, il va y avoir effectivement un deuxième décès dans cette affaire. Il y aurait pu en avoir d'ailleurs un troisième, une troisième personne, je reste mystérieux volontairement, pour faire comme dans les bons romans à suspense. Mais une troisième personne aurait pu perdre la vie dans cette affaire. Alors maintenant, on va revenir à l'enquête. Il y a un instant, Jean-Yves Le Naour nous parlait de ce juge d'instruction qui aimait beaucoup la presse, François Richard, et qui, poussé par des journalistes, avait fait dans le palais de justice des séances de table tournante. Enfin, peut-être qu'on en a rajouté d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, l'idée première était de faire venir un hypnotiseur pour essayer d'obtenir des renseignements sous hypnose que les personnes suspectées n'auraient pas donné, évidemment, dans le cabinet du juge. Mais ça n'a pas été suffisant pour élucider l'affaire. Alors nous allons maintenant, nous avons en ligne Francette Vigneron. Francette Vigneron, elle est journaliste. En 2004, elle a écrit un livre magnifique sur cette affaire, « L'œil de tigre, la vérité sur l'affaire du corbeau de Tulle », aux éditions Hachette Littérature. Et comme je le disais tout à l'heure, elle a récidivé, si j'ose dire, avec une bande dessinée, une BD dont on reparlera, qui s'appelle d'ailleurs « L'œil de tigre », bien sûr, puisqu'encore une fois, le mot « corbeau » à l'époque n'existait pas. Bonsoir, Françoise Vigneron.
Bonsoir Jacques et bonsoir Jean-Yves Le Naour.
Bonjour, bonsoir Françoise.
Je suis ravie de croiser sur les ondes.
Ben oui, parce que vous êtes les deux personnes qui avaient écrit sur ce sujet, les deux certainement plus passionnées. Qu'est-ce qui a fait, d'ailleurs, comment vous avez développé, Françoise Vigneron, une véritable passion pour cette histoire, vous ?
Oh ben c'est un jour dans le centre-ville de Tulle, en prenant l'apéritif au café Le Richelieu avec des amis, qu'on évoquait des affaires criminelles de l'histoire corrézienne, l'affaire Lafarge. Et puis un de mes amis a dit, tiens, il y a eu une grande affaire de lettres anonymes au début du XXe siècle, et la personne signait, je crois, l'œil de tigre. Et ça m'a tout de suite interpellée, parce que c'est pas banal. Ouais. En général, une lettre anonyme, on ne la signe pas, ou alors on met un ami qui vous veut du bien. Mais là, on était dans le pseudonyme, et pas n'importe lequel, un pseudonyme surpuissant, mégalomane, et qui méritait qui a déclenché ma curiosité. Voilà, ça a commencé comme ça. Et je n'ai pas été déçue.
Non, et alors vous avez fait une plongée dans les archives, évidemment. Vous avez essayé de retrouver, de reconstituer un petit peu toute l'instruction. Alors là, j'évoquais, moi, et j'aimerais beaucoup que vous nous en parliez maintenant, c'est que dans cette affaire, il y a ce docteur Edmond Locard qui va intervenir, donc fondateur du premier laboratoire de police scientifique à Lyon. C'est vraiment lui qui va permettre d'avoir l'idée qui va permettre d'identifier le scripteur.
Oui, c'est un génie. Edmond Locard est un génie facétieux, à multiples facettes et quelques contradictions, mais c'est quand même un des grands génies. On peut dire que c'est le père fondateur de la criminalistique en France. Et il est encore très réputé, y compris ses travaux. Mais il était à Lyon, et là, l'affaire se passait à Tulle. Et je refais juste une petite précision pour dire que, avant la mort du pauvre Gibert, à cause de deux lettres anonymes où sa femme était censée s'accuser d'être l'œil de tigre, il n'y avait aucun article dans la presse. Donc, jusqu'en décembre, au 30 décembre, où là, le journal La Dépêche, qui était un journal régional, local à l'époque, a fait enfin le premier article au moment des obsèques de Gibert, puisque le préfet Martin a révélé l'affaire qui durait, dit-il, depuis 4 ans et qu'on était en présence du génie du mal. C'est comme ça qu'il parlait. D'accord. Et qu'il fallait traquer, débusquer. Il appelait la justice à enfin débusquer. Tout le monde connaissait cette affaire, tout le monde en souffrait, mais il y avait un consensus de silence pour ne pas envenimer l'affaire. On pensait, et à tort, on pense encore souvent, même dans l'affaire Grégory, que c'est en parlant pas qu'on va éteindre l'incendie. Or, c'est exactement l'inverse. Ouais. Donc, tout le monde savait, y compris le juge Richard et le procureur Rigaud, mais là, à la mort de Gibert, il fallait vraiment, on était passé à un autre stade, c'est-à-dire des lettres anonymes avaient tué un homme qui s'est sans doute suicidé, bien que c'est jamais été dit explicitement. Mmh. Et donc, le procureur général à la cour d'appel à Limoges et le juge Richard, juge d'instruction, qui, entre parenthèses, n'a jamais parlé à des journalistes avant le procès, n'a jamais été pris en photo, sauf pendant le procès. Mmh. Et l'affaire du tournage de table, qui est très intéressant, c'était le secrétaire particulier du préfet, qui était devenu journaliste au matin, qui l'a convaincu d'avoir recours à la hypnose pour tenter de... Et Madame Maury, d'ailleurs, était volontaire. D'accord. Ça a été un grand guignol et le pauvre juge. Ouais. Mais le juge était un bon juge, bien que de province. C'était un très bon juge, parce qu'il savait, lui, il n'a pas inculpé Madame Maury, parce qu'il se doutait bien que c'était pas elle, mais il n'avait rien dans son dossier, les gens gardaient les lettres. Après la mort de Gibert, il peut disposer d'un corpus de 110 lettres anonymes. Il se dit Moi, je ne suis pas expert pour savoir comment les traiter. Alors, il a analysé le contenu et ils ont eu l'idée, parce qu'il y a eu une souscription en ville aussi, des gens qui se sont réunis, qui ont recueilli plus de 5000 francs, pour faire appel à titre onéreux à un expert. Et le meilleur expert de l'époque, c'était Edmond Locard.
Grâce à vous, on va entendre Edmond Locard parler de l'affaire. C'est un document vraiment historique. Hein. Il s'agit d'un enregistrement que vous m'avez permis de nous procurer, de diffuser sur RTL. C'est un enregistrement de ce qu'on appelait dans les années 50 une causerie radiophonique. Et Edmond Locard, c'est lui qui a eu l'idée de faire des dictées pour essayer de retrouver des liens avec l'écriture des lettres du corbeau. Alors, on reparle ensemble d'Edmond Locard dans un petit instant, Français de Vigneron, mais d'abord, on écoute. Alors, il faut prêter l'oreille parce que ce sont des enregistrements qui ont été faits sur cire, sur disque de cire, même si on est dans les années 50. Hein, et c'est... ces fameuses causeries auxquelles je faisais allusion à l'instant. Il parle, Edmond Locard, de l'atmosphère, des conséquences de cette épidémie de lettres anonymes dans la ville de Tulle.
Les lettres paraissaient par centaines. J'en ai eu pour ma part, le chiffre est facile à fixer, 365 entre les mains, autant qu'il y a de jours dans l'année et autant qu'il y a d'églises à Rome. Et j'en ai eu infiniment plus. Ces lettres, le tortionnaire n'osait plus les mettre à la poste, pensant à juste titre que les boîtes aux lettres étaient surveillées. Il les glissait dans les soupiraux des caves. On les trouvait quand on pouvait, un jour où on allait chercher du vin ou du charbon. Ou bien, il les glissait dans les cabas ou les paniers des ménagères pendant le marché. Enfin, les lettres arrivaient tout de même avec quelque retard à leur adresse et on s'apercevait qu'il y avait donc dans la ville une source empoisonnée, si je puis dire, quelqu'un qui avait le souci de faire de la peine à ses contemporains. Et en particulier, le personnel de la préfecture, les fonctionnaires étaient visés de la façon la plus désobligeante, et surtout, un jeune ménage composé d'un chef de division et d'une dactylographe qu'il venait d'épouser, qui étaient bien les plus braves gens de la terre, et qui étaient les seuls dont les lettres anonymes ne disaient aucun mal. Et naturellement, par un raisonnement trop facile, la population entière en avait conclu que ce seul couple épargné était l'auteur des lettres et la ville entière les accusait.
Voilà donc cet extrait. Bon, on ne peut pas résister au plaisir d'entendre ce qui est un double document, à la fois un document historique et un document vraiment radiophonique. On réentendra tout à l'heure un autre extrait, on entendra tout à l'heure un autre extrait de ces causeries radiophoniques d'Edmond Locard et nous retrouvons dans quelques instants pour continuer à parler du corbeau de Tulle, Français de Vigneron, qu'on entendait à l'instant, et Jean-Yves Le Naour, qui est également mon invité, qui est historien et qui est également passionné par cette affaire du corbeau de Tulle. La véritable histoire du corbeau de Tulle, la première grande histoire de corbeau du XXe siècle, hein, puisque les faits se remontent à l'année 1917, mais ça va continuer pendant de nombreuses années avant qu'on puisse identifier l'auteur ou les auteurs de ces lettres anonymes. On va essayer de préciser cela. On en parle dans cette émission avec deux passionnés du dossier, Français de Vigneron, qu'on retrouve dans un instant, et Jean-Yves Le Naour qui nous disait tout à l'heure combien évidemment le juge qu'on a un peu rapidement brûlé, quoi, parce que voilà, il avait ses faiblesses supposées avec la presse. Il avait quand même remarqué que il y avait une piste à suivre qui était la piste de cette femme qui était curieusement épargnée toujours par les lettres anonymes. Et comme le disait Edmond Locard dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, c'était une piste trop facile de penser que cette femme qu'on épargnait dans les lettres était l'auteur des lettres. Bien sûr, c'était pas ça la solution. Alors, dans un petit instant, avec Français de Vigneron, on va raconter comment Locard a mené ces fameuses dictées qui l'ont conduit à identifier de façon quasi certaine Angèle, la toute première, hein, la jeune femme. Mais en fait, elle y a mis du sien, si j'ai bien compris.
Eh oui, elle a fait une erreur. Elle a commis vraiment une grosse erreur. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à parler d'une lettre que des demoiselles qui tiennent un magasin auraient reçue. Et elle a commencé à parler du fond de cette lettre, de ce que contient cette lettre. Or, cette lettre, elle a été tenue au secret pendant 3 jours. Les demoiselles qui l'ont reçue n'en ont parlé à personne. Et ensuite, l'ont apportée, je ne sais plus, au juge ou au commissariat. Ouais. Ce qui fait que Angèle Laval était donc au courant de cette lettre qui n'avait pas été...
Voilà, que seuls les enquêteurs et l'auteur de la lettre pouvaient connaître.
Donc c'est quand même étrange, c'est quand même bizarre. Évidemment, ouais. tout la désigne à ce moment-là. Ouais. Et puis à ce moment-là, quand le juge enquête un petit peu en direction d'Angèle Laval, il découvre qu'elle était amoureuse de Jean-Baptiste Moury, qu'elle lui a fait des avances, qu'une fois même à la préfecture, elle s'est enfermée à l'heure du déjeuner alors qu'il n'y avait plus personne dans les bureaux. Elle lui avait donné rendez-vous en prétextant du travail. Elle a fermé la porte à clé, elle s'est déshabillée, elle s'est jetée sur lui, elle a voulu le caresser, elle a demandé même qu'il la prenne comme maîtresse s'il ne voulait pas d'elle. Bref, elle était, folle de lui. Et lui, il l'a humiliée, il l'a repoussée et il s'est marié avec une petite dactylo. Mmh. Alors là, évidemment, la haine, la frustration. Hein,
Il y avait l'explication, il n'y avait pas la preuve, on va dire, scientifique. Il fallait qu'un expert puisse trancher. Et cet expert, donc, français de Vigneron, c'est Edmond Locard. Alors, racontez-nous l'histoire de ces dictées.
Quand les 110 lettres sont recueillies par le juge, enfin, et non pas 365, parce que Locard, qui est un romancier, a le don, des fois, d'exagérer un peu.
Oui, mais bon, c'était joli, autant que deux jours dans l'année,
joli.
Bon.
Voilà, ouais. C'était très joli, mais bon. Il y en a 110. Ouais. On les envoie à Lyon, à Locard, pour un premier examen. Et d'accord. Il répond, toutes les lettres, à part 2-3 cartes du début, sont de la même main. Il dit, mais pour identifier l'auteur, il faudra que je puisse procéder à des comparaisons. Or, les comparaisons, il propose cette stratégie de venir à Tulle et d'organiser au palais de justice, de convoquer 8 personnes, enfin en l'occurrence 8 femmes, pour, je pense, noyer le poisson, pas en convoquer pas une seule,
c'est
Angèle Laval, mais Madame Moury, Angèle Laval, la mère d'Angèle Laval, la tante d'Angèle Laval, la mère et la sœur de Madame Moury, et puis deux autres voisines, Thérèse Souny et sa fille. Ça fait 8 femmes qui sont convoquées début janvier au palais de justice à 8h du matin. Alors imaginez, il y a toute la presse, et là il y a la presse nationale, et même il y a des gens qui sont venus de Belgique, enfin bon. Mais en tout cas, toute la presse nationale, la presse régionale, dans le palais, voilà. Et les femmes arrivent, Angèle Laval passe la première, et on la conduit, on les fait attendre dans la salle du tribunal correctionnel, et on leur fait faire la dictée dans la salle du tribunal, qui est aujourd'hui tribunal de police, enfin voilà. Ouais. Dans une autre salle où... le greffier du juge d'instruction vient les chercher, les emmène, et là, elle s'assoit, et devant Locard et le juge Richard, qui ne disent mot, Locard va conduire la dictée. Ouais. Le greffier prendre note, le juge Richard rester absolument quoi pendant toutes les séances.
D'accord.
Et il commence à dicter. La première dictée d'Angèle Laval dure... Alors, Locard expliquera qu'elle a eu une crise de nerfs, qu'il a fallu la calmer, la rassurer, et elle disait pardon, mais et elle a hésité, et il dira dans son rapport après qu'elle a mis 12 minutes pour écrire la première ligne. Bref, la première dictée dure pas loin d'une heure et demie, de 4 grandes pages. Angèle Laval sort, les avocats et les journalistes, enfin avec son avocat et avocat de la défense, parce que elle et son frère sont partis civils comme victimes à l'époque. Hein.
Bien sûr.
Donc elle dit qu'elle n'a rien fait, que tout va très bien, Madame la Marquise, sauf que sur l'escalier du tribunal en sortant, elle a une crise de nerfs qui dure 20 minutes, a été attestée par plusieurs journaux. Voilà. Puis elle rentre chez elle et elle dit seulement qu'elle est tout va très bien, mais qu'elle est quand même reconvoquée à 14h. Voilà. Après, elle passe, en gros les autres. Je ne sais plus de mémoire exactement dans quel ordre, mais notamment Madame Moury, dont la dictée, alors toutes les autres dictées durent un quart d'heure, 20 minutes, notamment celle de Madame Moury, qui sort radieuse en disant « Enfin, je suis tout à fait innocentée, enfin, je suis soulagée, enfin, le cauchemar est terminé. » Et elle ajoutera, en répondant à des journalistes, « Mais j'ai vraiment failli être accusée, enfin bon, un moment, et il était moins 5. » Voilà, donc elle sort radieuse. Et puis Angèle Laval revient l'après-midi, en début d'après-midi. Là, elle ne fera pas de crise de nerfs, elle se soumet à une deuxième dictée. Donc, dans la salle, comme le matin, où il n'y a que Locard qui dicte, ouais, et qui observe. Il ne faut pas oublier que Locard est aussi un médecin légiste, hein, pas seulement un criminologue. Ouais, donc, c'est un doublement observateur. Ouais. Le juge d'instruction et son greffier. La dictée dure aussi assez longtemps, au moins trois quarts d'heure. Ouais. Et puis, Angèle Laval sort. Et là, Locard repart avec les dictées. Il a laissé les lettres dans son laboratoire de Lyon. Les lettres anonymes, je veux dire, il repart avec les dictées. Tout de suite, il reprend le train pour Lyon, suivi par une cohorte de journalistes qui essayent de lui soutirer, bien sûr, des infos.
Et c'est là où il va faire les vraies comparaisons, c'est à Lyon, quoi.
Ouais, voilà, bah oui, dans son labo. Bien sûr. Là, mais enfin très rapidement, parce qu'en quelques jours, il va quand même envoyer un premier rapport, puis il y en aura un deuxième beaucoup plus complet. Ouais. Et simplement sur le quai de gare, il dit je ne dirai rien, bien sûr, pour l'instant, mais sachez que je souhaite rendre un hommage appuyé au juge d'instruction Richard, qui s'est montré, qui n'a pas fait preuve de lenteur ni d'incompétence, mais qui s'est montré d'une grande prudence et grâce auquel on a évité une grave erreur judiciaire.
Bon, voilà. Donc ça veut dire qu'on peut traduire, c'est Angèle Laval qui a fait le coup, quoi.
Voilà. Alors, ça se répand.
Mais attendez, il faut que... Excusez-moi, je vous interromps, c'est parce que le temps passe dramatiquement vite. Oui. Donc là, c'est bien Angèle Laval qui est identifiée
par Locard.
Et puis, il y aura donc le procès et il va y avoir, comme conséquence de cette identification, un autre drame dont nous parlons dans un tout petit instant.
Jacques Pradel sur RTL.
Les invités de l'heure du crime ce soir, Françoise Vigneron, journaliste, auteur du livre L'œil de tigre, la vérité sur l'affaire du corbeau de Tulle. Jean-Yves Le Naour, historien, auteur du livre Le corbeau, l'histoire vraie d'une rumeur. Nous sommes là, nous avons repris chronologiquement l'enquête, l'instruction. Bientôt, on va parler ensemble du procès, mais auparavant, Jean-Yves Le Naour, il faut raconter le drame suivant. Là, il y a eu ce monsieur Gibert, qui est devenu peut-être un peu fou, ou qui n'a pas supporté les accusations qu'on portait contre sa femme et qui s'est vraisemblablement suicidé, disons-le. Et puis, il va y avoir, après l'identification d'Angèle, parce que c'est clair, c'est dans tous les journaux, on a compris que le corbeau de Tulle était identifié, il va y avoir un autre drame.
Et oui, puisqu'à partir du moment, comme vous le dites, où Angèle Laval est sous le feu des projecteurs comme la coupable présumée, eh bien, elle panique et avec sa mère, eh bien, elle décide de mettre fin à leur jour en se jetant dans un étang. Pourquoi avec sa mère? Parce que probablement, quand on regarde les lettres, notamment au début, il y a des écritures qui sont un peu différentes, donc il est probable que la mère ait été dans le coup, qu'elle ait aussi écrit quelques lettres anonymes. Ouais. Et alors c'est probable, hein, voilà, je n'en suis pas certain.
Mais il y a des choses quand même curieuse, hein. C'est que on va retrouver donc ces deux femmes dans l'eau, hein, c'est ça, elles se jettent dans une mare. Sauf qu'il y a quand même un élément incroyable, c'est que la maman d'Angèle, elle a des liens.
Pour mourir noyée, il faut s'attacher à une pierre ou il faut s'attacher les mains et les pieds. Et c'est donc sa fille qui lui a attaché les mains et les pieds, qui l'a jeté dans l'eau.
Un suicide assisté. Donc, pour elle,
on les retrouve. Des bûcherons arrivent, ils entendent des cris, elle est là en train de patauger dans 30-40 cm d'eau. Et elle est retirée de là.
Sa mère, elle, s'est noyée, donc.
Voilà. Donc on pourrait même considérer que c'est un meurtre, puisque c'est un suicide assisté, elle a quand même serré les mains et les pieds de sa mère. Ouais. Mais on l'interne parce qu'on a peur qu'elle se suicide à nouveau. On considère que c'est elle, sans doute le corbeau. Ouais. Et elle assiste à son procès à Lyon en décembre 1922. Elle arrive en grand voile de deuil, d'où le nom de ce corbeau, de cet oiseau funèbre pour les journalistes. Et là, elle est condamnée. Elle est condamnée, mais figurez-vous, il y a quand même eu deux morts dans cette histoire, et comme une ville pendant 5 ans avec des lettres anonymes, une ambiance pourrie, etc. Elle est condamnée à un mois de prison et 200 francs d'amende parce qu'elle est justiciable de quoi ? Des injures publiques. Et si elle avait...
Elle était condamnée pour injures publiques.
Injures publiques, simplement injures publiques. Et si elle avait posté toutes ses lettres, si elle les avait cachetées, ça aurait été injures privées, ça aurait été quelques francs d'amende seulement.
Alors, Françoise Vigneron, on n'a pas parlé vraiment du procès. Donc la femme qui se trouve avec cette longue mantille noire qui va conduire des journalistes à évoquer un corbeau se retrouve dans le box des est accusé, mais pas accusé d'avoir tué sa mère. Comment se passe ce procès ?
Oh, ben, il y a foule, c'est archi-comble et c'est très électrique parce qu'Angèle Laval a essayé d'obtenir des psychiatres qui l'ont expertisé de ne pas être jugée à Tulle. Si elle était jugée irresponsable, elle risquait d'aller à l'asile et d'y rester très longtemps.
Eh oui.
Et si elle était jugée responsable, elle avait forcément un procès. Et aucune des deux solutions ne lui convenait. Donc finalement, elle est jugée. Mmh. Elle arrive, elle est en grand deuil, puisque sa mère est morte. Hein, donc voilà, ouais. En grand voile de deuil. Et au premier rang, assis sur une chaise en paille. Et cette petite chose, la journaliste André Violis de Paris va la décrire comme une toute pauvre petite, c'est étonnant que cette figure pâle, toute mince, elle mesurait peut-être 1m55, Angèle Laval. Mmh. Cette toute petite femme, toute menue, qui à l'époque a 37 ans, au moment de son procès, puisse être cet œil de tigre qui signait quand même « Je suis, moi, l'œil de tigre, le Lucifer de Tulle, devant moi, écartez-vous ». Et elle a beaucoup de mal à croire, André Violis, qui est journaliste au Petit Paris. Et d'un seul coup, elle dit, la voilà qui se lève pour se défendre, qui répond au président, qui rend coup pour coup et qui nie farouchement, bien sûr, avoir quoi que ce soit, parce qu'elle n'a jamais avoué.
Elle n'a jamais avoué, oui.
Ah non, jamais, elle a toujours nié même. Et elle termine son article, un merveilleux article d'ailleurs, très belle plume, André Violis, en disant, c'est un petit serpent dressé sur sa queue. Voilà. Donc elle assiste en direct à la métamorphose de la discrète Angèle que personne au début ne soupçonnait en œil de tigre.
Et voilà.
Ce qu'elle est devenue de manière fantasmée, bien sûr, dans les 4 ans et demi, presque 5, où elle a sévi à Tulle. Ouais. Donc elle sera effectivement... il y a tous les témoins qui défient.
Ouais.
Et au moment de la lecture d'un certain nombre de lettres anonymes qui sont retenues au dossier, qui ne sont pas prescrites, le président demande qu'elles soient lues à huis clos. Donc aux grandes dames de toute l'assistance, on fait évacuer tout le monde. C'est pour ça que dans la presse, il n'y a jamais eu... de la presse de l'époque, d'extrait de ces lettres anonymes, sur lesquelles après il y a eu aussi beaucoup de fantasmes, du coup, parce qu'elles ont été lues à huis clos, voilà.
Ouais.
Et finalement, Angèle est reconnue, elle est jugée donc en correctionnelle, elle est reconnue coupable de diffamation et injure publique et condamnée à un mois de prison avec sursis.
Ce qu'on vient de dire,
Avec sursis. Et sans francs d'amende, plus quelques dommages et intérêts aux parties civiles.
D'un mot, Françoise de Vigneron, elle a continué sa vie longtemps après cet épisode.
Eh bien, écoutez, elle est morte, longtemps, parce que qu'est-ce qu'elle a fait après ? Elle est retournée chez elle, 111 rue de la Barrière, où elle était née. Elle avait sévi, et
elle est restée à Tulle.
Elle est morte en novembre 67 à l'âge de 81 ans.
À Tulle,
dont elle n'a jamais bougé, sauf pour son expertise psychiatrique qui a lieu un peu à Limoges et à Bordeaux pendant 9 mois. C'est les seuls endroits, à part Tulle, où elle a été dans toute sa vie. Voilà.
Je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué cette histoire extraordinaire. Et le mot de la fin, je vais le donner à Jean-Yves Le Naour, parce que vous avez peut-être l'explication de cette expression qu'utilisait le corbeau, l'œil de tigre, qui vous a décrypté.
Eh bien, j'ai rencontré la petite fille de Madame Moury, qui m'a raconté que sa grand-mère, à l'époque, elle avait une bague, une grosse bague, avec une pierre, l'œil de tigre, une pierre qu'on appelle l'œil de tigre. Et donc, quand on signait l'œil de tigre, ça visait aussi à accuser Madame Moury, parce que tout le monde voyait cette grosse bague avec l'œil de tigre. Voilà. Donc, il y a eu énormément de spéculations sur ce mot. Moi-même, je me suis demandé ce que ça voulait dire, le tigre qui voit tout, féroce, etc. Mais... encore une fois, c'était machiavélique, cela visait à faire accuser sa rivale.
Merci à tous les deux. L'émission est maintenant terminée. À demain.